Bonjour à tous. Ce matin, on poursuit nos réflexions sur le responsable de l'Église, les responsables de l'Église. Alors, j'ai mis le S entre parenthèses parce que le responsable, c'est Christ, et on aura l'occasion encore de le rappeler. Alors, pour ceux qui n'étaient pas présents avant Pâques, pour ceux qui nous visitent ce matin, il nous a semblé bon à nous, responsables de l'Église, de prendre ce temps, quelques semaines, autour de ce sujet. Parce que depuis le mois de février, on a proposé à l'Église, un peu de façon intentionnelle, de réfléchir, de méditer, de prier autour de cette question-là du responsable. Alors, pour étoffer l'équipe de responsables, bien évidemment, pour questionner mon renouvellement de mon ministère dans l'Église. Alors, on a déjà pris le temps de survoler les qualifications, les responsabilités que la Bible nous présente des responsables, des anciens, on pourrait dire, ou des pasteurs. Hein, voilà, quand j'ai employé le mot ancien, pasteur ou responsable, voilà, c'est un paquet. Donné par Dieu à l'Église, on avait vu notamment il y a 15 jours que c'était un ministère de la parole, un ministère pastoral de prendre soin et un ministère notamment de direction. Ah, vous le savez, hein, pour ceux qui partage mon quotidien aussi, il y a quelque chose qui est précieux pour moi, c'est l'Église. L'importance vitale de l'Église dans la vie du chrétien. La vie du disciple. L'importance de s'attacher les uns aux autres. On est appelé, la parole de Dieu nous appelle à nous attacher, à nous engager, à prendre soin des uns des autres. Et pas juste quelques dimanches par-ci ou par-là. Parce que la présence de Christ s'incarne à travers ce que nous pouvons vivre ensemble. Bien sûr, on est centré, comme on l'a aussi rappelé dans plusieurs des chants, on est centré sur l'Évangile, sur la grâce qui nous a été faite, qui nous a rejoint. L'œuvre de Jésus-Christ, hein, c'est pas juste la conversion. Dimanche dernier, c'était Pâques. On a fixé encore une fois de plus nos regards sur l'œuvre de Christ, et c'est ce qu'on fera aussi au travers de la scène tout à l'heure. Mais on est là dimanche après dimanche, lorsqu'on se rassemble à nous rappeler de la grâce. C'est une bonne nouvelle pour toute la vie. Alors la grande question, et j'y vais en tremblant, hein, que j'aimerais aborder avec vous, c'est où se trouve l'autorité dans l'Église. L'autorité dans l'Église. On le sait, toute organisation a des fonctionnements, a des objectifs. Alors sans spolier les travaux qu'on va devoir mener sur le projet d'Église, sur la vision d'Église, les objectifs d'une vie d'Église pourraient ressembler à ce que je vous avais partagé en début d'année, hein, sur les résolutions que j'avais pour nous, et je les affiche juste. Hein, on aimerait vivre une Église qui soit transformée par l'adoration, ça veut dire une Église transformée par notre regard qui est fixé sur ce Dieu qui règne, comme on vient de le chanter. On est là pour nous encourager, donc le deuxième élément, hein, des disciples investis dans la vie des uns et des autres, c'est la place de l'Église, c'est la place des relations fraternelles, et bien évidemment c'est pour annoncer, pour avoir un témoignage public, annoncer, encourager, annoncer l'Évangile. Alors en disant ça, on se dit, mais comment on fonctionne ensemble? Comment on avance ensemble en tant qu'Église? Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est une théocratie? Voilà, Dieu. Comment fonctionne l'Église? Ça peut être technique. Alors je sais que plusieurs nous ont aussi rejoints ces derniers mois, ces dernières années, comprendre entre un collège d'anciens, un conseil d'église, un conseil d'administration, etc., des rencontres vie d'église, des responsables d'activité. On aura cet après-midi nos assemblées générales. Enfin, voilà, il y a un paquet de choses et c'est pas évident de se dire, mais où se trouve l'autorité? L'Église est là pour refléter l'amour du Seigneur et ça passe par la qualité de nos relations. Alors travailler sur le sujet de l'autorité dans l'Église, le sujet de l'autorité et l'Église, c'est un sujet important pour deux raisons, parce que la parole de Dieu en parle, bien évidemment, c'est enseigné, et un des éléments qui me tient particulièrement au cœur, parce que c'est l'enjeu aussi de notre témoignage. Une autorité mal vécue porte préjudice au témoignage de l'Église, au témoignage de l'Église et des chrétiens. Un bon témoignage dépend du bon fonctionnement de l'Église, et donc une juste compréhension de l'autorité. Alors si vous savez que, si vous vivez l'Église depuis quelque temps, vous savez, c'est pas facile. Ça grince parfois, le témoignage peut être douteux, il y a besoin de remettre un peu d'ordre. Un sujet important. Alors je vous propose de rentrer dans deux textes. Un texte qu'on a déjà lu il y a 15 jours, et je vous ai dit qu'il y a un des versets que j'affectionne particulièrement dans ma responsabilité, dans Actes 20, versets 25 à 32, je vous invite à prendre vos Bibles. Donc c'est Paul qui s'adresse à des anciens, les anciens d'Éphèse en particulier. Je vais juste prendre un extrait, versets 25 à 32. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne jusqu'ici. Très fort. Deuxième passage. À Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui s'adresse aussi à l'Église, mais sous un autre registre. 1 Pierre 2, versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple choisi, pardon. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à garder ces deux textes en tête, parce que je ne vais pas toujours y revenir, mais l'essence de ce que j'aimerais partager ce matin s'y retrouve. Je vais juste boire un coup. Je lis dans Jean 13, c'est Jésus qui parle. « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Beau verset, hein ? Très très beau verset. Le monde reconnaît que nous sommes les disciples du Seigneur, à l'amour, aux relations, aux belles relations. Alors c'est vrai, on a déjà entendu, on a déjà vécu des conflits dans une église. L'église locale, c'est pas joli. Parce qu'on est pécheur. Il y a des choses difficiles, il y a des conflits, des incompréhensions, des malaises. Mais la parole de Dieu nous encourage, nous aide à voir comment doit fonctionner l'Église. Et c'est un sujet important parce que nous voulons que l'Église vive ce verset. Comprendre l'autorité, comprendre la manière dont Dieu veut que nous vivions, détermine aussi la qualité de notre témoignage. Nous souhaitons que notre Église rayonne. On souhaite que d'autres se rajoutent. On a la nécessité de regarder à l'Écriture. Écoutez comment Paul encore dit des consignes à son collaborateur Timothée. Je vous écris cela avec l'espoir de te rejoindre. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment, donc ça veut dire que la lettre de Timothée exhorte à comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Comment il faut se conduire, parce que l'Église est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Ensemble, quand on est rassemblés, on proclame Dieu. la grandeur de Dieu, qu'il est un Dieu vivant. L'Église est là pour représenter la vérité de Dieu. Alors l'Église doit être un modèle. Voilà comment je résumerai un peu mon propos ce matin. Une Église locale en bonne santé est la plus belle expression de l'Évangile sur la terre. Et donc il y a la nécessité d'avoir des relations saines entre responsables et l'Église locale pour manifester toujours cette beauté de l'Évangile. Notre témoignage, mes amis, ensemble, est important et puissant. C'est pour cela que notre témoignage doit parler à travers nos relations que nous avons, jeunes et moins jeunes, qu'on soit alsacien ou qu'on soit pas alsacien, qu'on ait d'autres origines. La qualité de nos relations est plus importante que notre témoignage personnel. C'est ce que je disais, on doit nous aider, nous exhorter dans la foi. On doit grandir, on doit s'épauler. C'est super important. Et si on accompagne quelqu'un, si on lui partage notre foi, c'est hyper important de le connecter à la communauté, au peuple de Dieu. Parce que c'est dans la communauté, dans le peuple de Dieu, que se manifeste, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? La vérité. Je sais que c'est contre-culturel de se rassembler. On aime être chez soi. Mais l'amour des uns et des autres manifeste la beauté de l'Évangile, manifeste la beauté de l'Église. Alors la grande question que j'aimerais ouvrir, c'est où se situe l'autorité dans l'Église locale ? Où se situe l'autorité ? Toute forme d'organisation sur terre a une forme d'autorité. Jésus qui dit, Matthieu 16, on le connaît, « Moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » De manière ultime, et j'espère qu'on est d'accord, l'autorité, c'est Jésus qui l'a. L'autorité dans l'Église, c'est Jésus qui l'a, parce que c'est lui qui bâtit son Église. Nous sommes, on l'a entendu dans 1 Pierre, le peuple de Dieu. Dans Actes, on a dit l'Église de Dieu. L'autorité de Christ. Où se trouve l'autorité ? L'autorité de Christ. Et là, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse sur le concept d'autorité dans la Bible. Et avec le pendant, c'est la soumission. L'autorité, ça n'a rien à voir avec supériorité et avec infériorité des personnes. L'autorité n'est pas une tyrannie ou une domination de quelqu'un envers l'autre, mais c'est toujours quelque chose de bon qui vise le bien de l'autre. L'autorité dans la Bible, et vous le verrez, on le voit, elle vise le fait d'élever l'autre. Celui qui a autorité élève l'autre et il s'abaisse lui-même. Et c'est ce que Christ a fait. L'autorité de Christ, elle s'est manifestée comment ? Pas en, mais en s'abaissant, en se faisant serviteur, en s'abaissant, venant donner sa vie pour nous élever, pour nous réconcilier, pour nous rattacher à Dieu. C'est ce que Christ a fait. Il a cette autorité-là, mais il l'a manifestée par sa soumission, par son attitude d'humilité, de serviteur. Alors c'est vrai, on a une mauvaise vision de l'autorité parce qu'elle est tordue par le péché. Et au lieu d'être ce canal de bénédiction, elle est un moyen de rabaissement. Et la soumission dans la parole, qui est le pendant de l'autorité, en fait, si quelqu'un a autorité, la personne en face, elle est appelée à se soumettre. Et on voit dans la Bible que la soumission, elle n'est pas imposée, mais elle est personnelle et elle est volontaire. C'est-à-dire, dans la Bible, c'est pas celui qui a autorité qui nous soumet, mais c'est nous qui nous soumettons à l'autorité. Vous voyez le renversement ? C'est à la conversion, c'est quand on découvre l'Évangile qu'on se soumet à l'autorité de Christ. C'est parce qu'on a réalisé qu'il a tout fait pour nous qu'en fait on réalise, je peux que me soumettre à ce qu'il me dit. Christ s'est fait serviteur pour restaurer cela. C'est volontairement qu'on se place sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ce verset tout à l'heure de « Je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon Église ». On le sait, l'Église catholique romaine, le chef de l'Église, c'est Pierre, qui à sa mort a choisi un successeur, qui allait nommer son successeur, Alors Paul, il est où Paul là-bas ? Avec l'histoire de l'Église, nous parlerait bien mieux que moi de cela, mais c'est le pape qui allait être le chef de l'Église. Aujourd'hui, on appelle le pape celui qui a autorité, avec son conseil d'évêque. La parole du pape, c'est la parole de Dieu. C'est la même autorité. Et il a fallu la réforme protestante du XVIe siècle, une des grandes découvertes que l'Église a refaite. L'autorité n'est pas dans le pape, mais sola Christus, en Christ seul, dans la Bible, sola scriptura, en la parole seule. Et parce que Jésus, avec son autorité, nous a laissé les Écritures, l'autorité des Écritures. Et ça, c'est un peu le deuxième point, hein. C'est par sa parole. Alors, à la réforme, qu'est-ce qu'on a fait? On a traduit dans la langue pour qu'on l'ait, on ait un accès. Et aujourd'hui, on en a tous, on en a même sur le smartphone, en plusieurs traductions. Dans la langue du peuple. Avant, on était dépendant du prêtre et on pointait vers le pape qui avait l'autorité, mais maintenant on dit que l'autorité est en Christ et qu'elle est dans sa parole. Le changement est énorme. On revient vers le Nouveau Testament, on réfléchit comment l'autorité doit être vécue dans l'Église. Changement énorme. Et dans l'Église évangélique, et dans cette Église évangélique, on proclame que l'autorité est en Christ seul. On proclame que l'autorité est dans sa parole. Et c'est pour cela aussi que je me sentais à l'aise d'affirmer cela ce matin et de ne pas demander un orateur extérieur. Parce que pour nous, Église de Wittenheim, il y a personne à l'extérieur de l'Église qui a autorité sur l'Église. Il n'y a pas un être humain qui a une autorité sur cette communauté d'Église locale. Alors je ne vais pas vous parler des différentes formes de gouvernance qu'il y a dans l'Église. On a eu un rapport très synthétique par mon collègue David l'année dernière. Et je le mettrai dans le lien cette semaine encore. Mais on est une église du type congrégationaliste. Bien évidemment, on est soumis à des lois civiles, associatives, qui viennent compliquer la réalité de tout cela, avec les AG cet après-midi, mais il n'y a pas de hiérarchie à l'extérieur de l'église. C'est ici que ça se passe, dans l'église. On reconnaît l'autorité de Christ, on reconnaît l'autorité de la parole. Petit schéma. Ça semble technique, mais ça va devenir concret. Un prisme de l'autorité de la Christ, c'est lui qui bâtit l'Église. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les missionnaires. Mais comment l'Église bâtit son Église? Par sa parole, sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On est l'Église, une partie de l'Église. Et c'est en Jésus que nous voulons reconnaître son autorité. Par sa parole. Alors comment on doit faire? Comment on doit penser? Comment on doit répondre aux enjeux, aux questions cruciales qui nous préoccupent? Ben, on va ensemble dans la parole. On va chercher ensemble dans la Bible. Et c'est pour cela que dans l'Église, on prend l'habitude d'exposer dimanche après dimanche, par exemple l'Évangile de Marc, parce qu'on a soin de voir quel est le plan de Dieu pour nous en tant qu'Église. Et on va essayer de chercher ensemble les applications pour notre vie. Alors je sais, c'est pas facile. C'est pour cela qu'on on vous encourage à avoir un plan de lecture quotidien. Chacun, on vous encourage à vous plonger dans l'autorité de l'Écriture. Alors on distribue chaque mois un plan pour ceux qui veulent, un plan de lecture si vous n'en trouvez pas. C'est pour ça qu'on vous encourage à rejoindre un groupe de maison pour ouvrir la parole de Dieu ensemble, ou un binôme avec qui vous pouvez lire, prier. C'est pour ça qu'on essaye de travailler notre répertoire de chant, parce qu'on veut, on sait, on s'enseigne aussi par les paroles qu'on chante et qui viennent impacter nos cœurs. Donc on essaye d'avoir des chants qui sont saturés de l'Écriture, de la parole de Dieu. Et c'est un travail. Je vous parlais de l'Église catholique, ce qui est au centre de l'Église catholique, c'est l'autel, ils refont toujours le sacrifice. Alors oui, nous, on se rappelle le sacrifice. Mais à la Réforme, ce qui était au centre de l'Église protestante, c'était la parole. Voilà, il y avait l'endroit où on lisait, c'était placé au centre. Parce qu'on voulait se soumettre à l'autorité de l'Écriture. C'est pas les pasteurs, c'est pas les responsables, mais on va chercher dans la parole. L'autorité ultime, elle est en Christ et sa parole. Mais on voit aussi que dans sa sagesse, Dieu donne des anciens, Dieu donne des pasteurs, des responsables, un collège d'anciens pour conduire l'Église. Il y a le don du collège d'anciens. Et on le voit. Alors mon rôle, notre rôle en tant qu'ancien, est essentiellement d'aider l'Église à comprendre la parole de Dieu, à l'enseigner, comment on doit l'interpréter. Hébreux 13, verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs, donc de ceux qui vous ont enseigné, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Dieu fait don de responsables pour nous expliquer les Écritures, pour nous encourager à revenir là, pour nous encourager à pointer sur Christ. Je vous disais tout à l'heure, des versets les plus qui m'interpellent, c'est dans Actes qu'on vient de lire, je le relis simplement. Acte 20, verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Là, on voit toute la responsabilité et on a plein d'expressions là-dedans qui rappellent le mandat de responsable. On est là pour enseigner l'attachement à Christ. On est là pour encourager l'Église à s'attacher à Christ, pour s'attacher à la parole de Dieu. On n'a pas un accès différent du vôtre au Seigneur. Dans le Nouveau Testament, et c'est ce qu'on voit dans le texte d'un Pierre qu'on a lu, on a chacun reçu le Saint-Esprit qui nous éclaire. À la mort de Jésus, on passe par la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit. Et si tu es chrétien, on a l'Esprit Saint. Comme moi, j'ai l'Esprit Saint. Il n'y a pas une version 2.0 pour les pasteurs. Je ne suis pas plus sanctifié que vous. J'ai pas un autre accès que toi. J'ai pas un accès plus direct à Dieu que toi. J'ai une responsabilité différente qui m'a été confiée de vous pointer dans la bonne direction. On va pas aller confesser au pasteur, on va confesser les uns les autres. On est égaux devant Dieu. On est tous appelés à vivre des relations entre nous d'autorité et de soumission selon les rôles, selon les dons que Dieu nous confiera. L'autorité déléguée d'un responsable d'église, c'est pas un privilège ou un droit, mais une responsabilité de vous encourager dans la parole, de nous attacher à la parole de Dieu et de regarder à Christ. Et quand je dis ça, j'avais le texte, mais je veux parler du ministère de l'Église. Nous sommes tous prêtres. On l'a lu dans le passage d'un Pierre. On a le même accès à Dieu. Je relis, verset 9. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Comme ce que faisaient les sacrificateurs, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer ensemble les louanges. On est une église assemblée de prêtres qui a accès à Dieu. Et on a tous la responsabilité d'annoncer Christ, de partager Christ à tout le monde. Alors, lorsqu'on cherche l'autorité de l'église locale, je reviens au schéma de tout à l'heure, ce prisme. Les anciens ont une responsabilité, donnent une direction à l'église. Mais la responsabilité se trouve aussi parmi nous. Elle se trouve dans cette responsabilité collective. Parce que nous sommes, en tant que congrégation, en tant qu'église, rassemblés, revêtus du Seigneur, revêtus de l'Esprit Saint. Et nous sommes ensemble appelés à regarder à Christ. Et l'église, elle est là pour étudier sa parole et pour incarner Christ ensemble. Je trouve fabuleux quand on regarde comment Paul encourage dans ses églises à dénoncer les faux prophètes, par exemple. C'est à l'église qu'il demande de discerner. Lorsqu'il appelle l'église à exercer la discipline contre un frère qui a égaré, on parlait de loup tout à l'heure dans le passage de Actes, c'est toute l'église locale réunie en assemblée qui doit exercer la discipline. Il y a un ministère de l'église, une responsabilité, il y a une autorité donnée à l'église rassemblée. C'est toute l'église locale qui a une responsabilité, qui a une autorité de veiller à ce que la parole soit au centre, que Christ seul soit prêché. Alors donc, si nous responsables, nous faisons des erreurs, si on n'a pas bien interprété les Écritures, alors venez nous en parler, parce que vous avez une responsabilité. Le vrai berger, je l'ai évoqué il y a 15 jours, le vrai berger c'est Christ. Veillons. On peut avoir de mauvaises attitudes. Donc oui, il y a la place pour que nous demandions pardon les uns aux autres. C'est lui le véritable. Alors regardons concrètement, j'avance un peu, l'autorité des anciens. On l'a déjà vu, mais je survolerai, mais c'est Dieu qui établit un collège ancien. Alors une église, pour pouvoir bien fonctionner, doit avoir une structure d'autorité, et on le voit dès le début de l'église. Pierre, Paul ont encouragé les églises locales à nommer des hommes responsables qui seraient chargés de veiller, de conduire, de soigner le troupeau. C'est là la nuance, c'est là l'équilibre de ce schéma. Il n'y a pas d'égalité quelque part. Il y a une maturité, il y a une spiritualité, il y a une conduite, il y a une responsabilité. Prendre soin de l'Église. Nous sommes appelés à être ensemble, un collège d'anciens. Il y a la pluralité. Hein. C'est au pluriel, on l'a déjà évoqué, je ne reviendrai pas plus. On est tous égaux devant Dieu. C'est vrai que pour ma part, c'est vrai, j'ai du temps. J'ai un mandat particulier qui m'a été confié, reconnu par l'Église, suivant mes dons. Alors peut-être, c'est vrai, je prêcherai peut-être un peu plus régulièrement. J'ai du temps pour des visites, pour prendre soin des uns des autres, pour venir à la rencontre de ceux qui ont des questions. Ça donne, c'est vrai, une certaine influence sur le conseil. Mais c'est Christ que nous voulons suivre. C'est lui l'élu. Et nous sommes appelés ensemble à chercher la direction, à discerner ensemble. Et c'est pour ça qu'on encourage l'Église à discerner les hommes que Dieu appelle à prendre ces responsabilités-là. Parce qu'il y a ce rôle, bien sûr, d'enseigner, de conduire, de soigner. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a évoqué dans les deux premières interventions et je vous invite à les écouter si vous n'avez pas eu l'occasion. Il y a bien des ressources qui vont bien mieux présenter la responsabilité du responsable. Mais mon mandat, et je l'ai déjà dit, c'est d'équiper l'Église, de prendre soin de l'Église. Paul nous dit dans Éphésiens, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Dieu distribue des dons, et c'est à nous de les reconnaître, de les voir, de les discerner. Dieu nous équipe. Et les responsables ont cette responsabilité de nous encourager à regarder les dons confiés aux uns et aux autres. Il n'y a pas que les anciens qui ont un ministère. Nous avons tous un ministère. Chacun a un rôle. Et mon rôle, une partie de mon rôle, c'est aussi de t'encourager à trouver le tien. Je suis dans le ministère, mais vous êtes, si vous êtes chrétien, vous êtes aussi dans le ministère. Vous êtes aussi des enfants de Dieu qui sont appelés à porter du fruit. Mon rôle, c'est de vous aider, de vous équiper, de vous encourager. Bien sûr qu'on peut mieux faire. Bien sûr qu'on se sent limité avec Matthieu d'être que deux pour encourager une église. C'est pour ça qu'on nous encourage à prier, de dire est-ce que c'est le temps pour l'église d'étoffer ou pas ? L'église. Bien sûr, on est épaulé aussi, et la parole de Dieu parle de diacres. Littéralement des serviteurs, des gens qui vont être au service de l'Église et qui vont faire un bien fou. Et je pense que c'est vrai qu'on le reconnaît peut-être pas dans l'Église. On a une diacrénée, merci Chantal, c'est vrai, c'est la seule qui, on va dire officiellement, a été il y a quelques années reconnue comme une servante du Seigneur parmi nos aînés. Mais il y a quantité de petites mains qui sont au service de l'Église pour le bien. Donc Dieu, dans sa sagesse, a donné ces dons-là de diacres et de diaconesses, tellement précieux pour faire avancer. Ma prière, c'est que j'aimerais nous voir chacun rentrer dans le ministère qui est le nôtre pour prendre soin de l'Église, pour servir l'Église. Alors, c'est presque, on y arrive. Je savais pas comment j'allais l'appeler ce texte, est-ce que j'allais dire l'autorité de l'Église ou soumission de l'Église, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Nous sommes, on l'a déjà dit, une nation sainte, tous habités du Saint-Esprit. Apocalypse, je sais pas si je l'ai noté, non. 1, 5, 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. La parole de Dieu reconnaît l'autorité, la place de l'Église. Par nos louanges, par notre service, par notre intercession, nous témoignons. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et le texte d'un Pierre nous l'a dit. Il y a un aspect participatif des choses. On doit prendre au sérieux notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. On a une place, chacun sa place. Et c'est collectivement que nous sommes appelés à avoir cette vigilance autour de l'Écriture, autour de la personne de Christ. Et quand je dis ça, je dis aussi à la nécessité de vivre l'Église. Parce que parfois on s'identifie à une Église et on ne vit pas l'Église. On est présent en pointillé. On a lu dans le groupe de maison cette semaine, et je trouve que c'est là où on voit la place de l'Église. On était dans Acte 15, et c'est l'expansion de l'Église, de l'Évangile, pardon, et aussi l'expansion de l'Église, bien évidemment. Et le salut, la bonne nouvelle est à la fois chez les juifs et les non-juifs. Et vous savez, vous l'avez déjà entendu, il y a commence à avoir un conflit. Les juifs, ils se disent, oh, les non-juifs, ils devraient se plier à tous nos rites. Alors, ça commence à murmurer dans l'église. Les plus pharisiens des chrétiens juifs ont dit, ah là là, les non-juifs, il faudrait... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, il faut qu'on en discute. Paul et Barnabas, ils sont chargés d'aller à Jérusalem, d'en discuter avec les apôtres. Et avec l'église rassemblée. Et là aussi, quand on présente le problème, bah les plus sacrificateurs se lèvent. Mais on voit et on discerne dans ce texte quelque chose d'incroyable. C'était que chacun a pris à un moment donné la parole, plusieurs. Et à la fin, ils sont arrivés à un consensus, une décision. Et je trouve que c'est ça qui est la force de leur réponse. On voit ça dans Acte 15. Hein. Le texte nous dit, il a paru bon à nous, apôtres. Ouais, l'autorité des apôtres. À nous, anciens. Ah tiens, il y a encore des anciens, d'autres responsables. Et aux frères. Et à l'église rassemblée de vous faire parvenir cela. À toute l'église qui est là. Pourquoi? Parce que toute l'église, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, a reçu le Saint-Esprit. C'est ensemble que collectivement ils ont réussi, que le Seigneur a donné du discernement pour avancer. Ils ont vécu l'église, ils étaient rassemblés. La parole de Dieu nous dit que l'église de Jérusalem se retrouvait aussi fréquent que possible, parfois tous les jours. Je sais pas comment ils faisaient. Parce que toute l'église, là il y a l'idée, nous sommes une nation sainte. Quand les anciens, quand nous responsables, on cherche la direction de l'Église, et on le fait, on le cherche dans la prière, bien évidemment, lorsqu'on veut s'engager dans un projet, un gros projet, on cherche la face de Dieu, on cherche à discerner comment l'Écriture de Dieu, de la parole de Dieu nous en parle, on cherche d'avoir un accord commun. Et là, on ne dit pas encore que Dieu a parlé. Mais si on avait un grand projet, et on l'a avec le renouvellement des anciens, on le présente à l'Église, et on doit avoir un discernement collectif. Tant que l'Église n'a pas dit « Amen », il a paru bon aux anciens et à l'Église d'aller dans cette direction, c'est peut-être pas le plan de Dieu, de l'instant. On a tous l'Esprit Saint, tous les croyants, avec du discernement. Et si nous avons bien entendu ce que Dieu nous appelle à dire, à vivre, on devrait aller dans la même direction. Alors si c'est pas le cas, c'est de se dire « Ouh, peut-être que nous, anciens, on s'est peut-être un peu trompés, on doit peut-être retourner travailler, réfléchir devant le Seigneur. » Ce que je trouve fort dans le texte d'Acte 15, c'est un sujet gros pour éviter la division entre juifs et non-juifs. À la fin d'Acte 15, il y a un autre épisode pas très glorieux où on apprend que Paul et Barnabas se séparent parce qu'ils sont en désaccord sur quelque chose. Il y a eu un désaccord. Il n'y a pas eu cette unité-là, sur le coup-là. Mais les enjeux étaient tout à fait différents. Pour l'unité de l'Église, nous sommes appelés entre responsables d'Église et l'Église à avoir, aller dans une même direction, des décisions. Nous sommes appelés à avoir des décisions communes. Que l'Église puisse donner son Amen, son consensus spirituel. Et si nous avons bien entendu Dieu, nous devrions ensemble aller dans cette direction-là. C'est pas juste les anciens qui doivent être convaincus. C'est toute l'Église. Alors c'est vrai, ça va peut-être pas toujours être une évidence pour chacun. Peut-être pas tous, mais peut-être que d'autres auront d'autres avis. Mais seront se rallier de bon cœur à la décision choisie par peut-être le plus grand nombre. C'est l'ensemble de l'Église. Nous sommes, en tant qu'Église de Wittenheim, on s'auto-gouverne, on pourrait dire, parce que, voilà, le Seigneur nous a revêtus de son autorité, par son esprit. Je compléterai juste, il y a une interdépendance. Si l'autorité de l'Église s'exerce dans l'Église, on cherche pas à être isolé. Hein. On va pas rester en vase clos. Et dans l'Ancien Testament, et c'est pour cela, si on retourne à l'Écriture, on voit qu'il y a il y avait des connexions. On voit qu'il y avait des ministères qui transversaux. Une église n'est pas appelée à être indépendante, ni dépendante des autres. Il y a une interdépendance, des connexions. Il y a des dons qui ont été donnés pour l'avancée de l'évangile. On va encourager en tant qu'église à cultiver des liens, mais on doit aussi discerner la manière dont on doit cultiver des liens avec les églises qui nous entourent, avec notre famille d'église. Alors j'ai dit tout ça. Mais il manque un ingrédient. Il manque un ingrédient autour de cette réflexion-là, de l'autorité. Et je vais terminer par cela. L'autorité de Jésus, l'autorité de sa parole. Les anciens sont revêtus quelque part d'une responsabilité, d'une autorité pour enseigner la parole de Dieu. Toute l'Église est appelée à une autorité d'enseigner, de chercher la face de Dieu au travers de l'Écriture. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire s'il y a quelque chose qui vous offense, venez nous voir. C'est pas tout à fait ça comme je vois dans la parole. C'est le quatrième point que j'aimerais voir, c'est que L'Église est construite sur l'Évangile, sur la parole de la grâce. L'Église peut venir voir ses responsables et dire qu'il y a des choses à travailler, à corriger. On n'est pas offensé que l'on nous reprenne, parce qu'il y a la place de l'Évangile. Il y a la place du pardon. Pour ceux qui étaient là, il y a 15 jours, j'ai prêché sur la responsabilité qui était la nôtre d'être des bergers, des conducteurs, qui prennent soin. Et à la fin du culte, une sœur est venue et m'a partagé sa peine par rapport à sa situation personnelle. Elle s'est sentie négligée. On n'a pas pris soin, en tant qu'Église, soin d'elle. Elle a traversé une période compliquée. Elle a senti l'Église absente. Elle a senti que j'étais absent, que j'ai pas pris soin, que j'ai pas vu. Ma réaction, elle est quoi? Demander pardon. Pardon pour mes manquements. Pardon d'avoir pas vu. Pardon d'avoir été aveuglé. Je vous cache pas que lorsqu'on vient nous dire, ah, ça te travaille les tripes, et dans mon cœur, je me disais, je me cherchais des excuses. J'étais en vacances. J'avais trop de choses. Enfin, mais il y a la place pour revenir à l'Évangile. Et on pardonne, et on s'est pardonné. On s'est pris dans les bras, et on s'est dit, on recommence. Mais bien évidemment, il y a la grâce. On a besoin de la grâce, on fera mieux la prochaine fois, on essaiera de voir là où on a loupé, d'être davantage vigilant sur les signes. Mais on a une responsabilité. Autant elle n'est pas venue, et elle a reconnu, c'est vrai, j'ai pas appelé, j'ai pas crié à l'aide. Et autant j'ai dû reconnaître que j'étais peut-être pas, nous avons été pas en tant qu'Église à son soin. C'est vrai, si vous êtes dans l'Église depuis plusieurs années, vous m'avez déjà entendu demander pardon pour mes négligences, pour les éléments ou des aspects qui n'ont pas été glorieux. Mais il y a la place parce qu'il y a l'Évangile. Parce qu'il y a l'Évangile et on repart. On n'est pas tant des modèles comme on devrait l'être, mais on s'est lamentablement planté. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a l'Évangile. Alors ça me dérange pas si tu viens me voir, tu m'évoques ta préoccupation, ton discernement. Une décision d'Église, une décision d'ancien n'est pas infaillible. Et je crois qu'elle peut s'avérer, hein, qu'on a besoin parfois de remettre en question, de remettre en lumière les éléments d'une conviction qui est différente. Et je pense que dans l'Église qui est en vie, il y a parfois des choses qui étaient dans le passé, qu'on avait pris de cette façon-là, qui peut-être demain doivent être différentes. Parce que Dieu travaille, parce qu'on veut se soumettre à Christ, parce qu'on veut se soumettre à l'autorité de sa parole. Et pour cela, on a besoin de se retrouver. On a besoin de s'humilier ensemble devant l'Écriture. On est en paix. Alors qu'est-ce qui nous manque? C'est l'Évangile. L'Évangile est l'huile. L'huile qui vient graisser le moteur de notre fonctionnement d'Église, de l'autorité, de la direction. C'est la grâce qui nous permet d'avoir de belles relations ensemble et de se pardonner. Combien de fois entre nous devons-nous nous pardonner? L'Écriture nous le dit. Combien de fois devons-nous nous pardonner les uns les autres? Combien de fois je vais devoir venir encore demander pardon devant vous, autant que le Seigneur le montrera par sa parole, par l'autorité, par le Saint-Esprit? L'Évangile est central. Et nous sommes là dans l'Église pour proclamer ce message-là. Aucun mérite. Je conclus. Alors si ici dans l'Église locale, on comprend que l'autorité avant tout, c'est Christ, par sa parole, par son esprit, que d'eux, il a confié une responsabilité reconnue à des responsables, à des hommes, capables d'enseigner, capables de soigner, de prendre soin. Si toute l'Église reconnaît qu'elle a une responsabilité, qu'elle a une autorité, en se soumettant à la parole de Dieu, alors toute l'Église va briller, toute l'Église va rayonner. L'enjeu est notre témoignage, l'enjeu, cela va être une bénédiction. Et je crois que c'est pas facile de trouver l'équilibre entre ces trois pôles, entre la seigneurie de Christ et l'autorité de sa parole et la place de l'Église et la place des anciens qui sont confiés à Dieu. L'équilibre. Que notre Église locale puisse dans la prière, puisse dans l'attachement à la parole de Dieu être éclairée de comment nous devons vivre, témoigner l'Église. Alors, je t'invite, si tu n'es pas membre de l'Église, à réfléchir à qu'est-ce que ça veut être membre de l'Église, à t'attacher pour servir, pour t'engager. Il y a la place pour chacun. On est des dons. S'il manque la main, que ferons-nous? Dieu t'appelle à être peut-être diacre, Dieu t'appelle peut-être à être responsable. Mais si tu es membre de l'Église, Dieu t'appelle à étudier les Écritures pour avoir du discernement. Dieu t'appelle à t'investir dans la vie du prochain. Si tu es membre de cette Église, tu es invité à prier pour les anciens. Parce que c'est pas facile, parce que la tâche peut être lourde. Prier pour nos prédications. Plusieurs fois ces derniers temps dans les échanges que j'ai pu avoir dans le cadre de mes visites, il y avait toute la difficulté de se dire, ben voilà, on prêche la parole, on enseigne, mais comment on se l'applique? Mais priez pour que on puisse avoir la sagesse, le discernement pour pouvoir vous rejoindre dans nos préoccupations qui sont, autant qu'on est personne, on a tous des vies différentes, mais la parole est pleinement suffisante pour répondre. Et nous sommes appelés, priez pour que j'ai de la sagesse, pour que nous ayons ce qui enseigne du discernement dans nos prédications. Priez pour l'Église, priez pour l'unité de l'Église, pour qu'elle vive ce qu'elle est appelée à vivre. Ça fait 7 ans que je suis ici, que je sers l'Église. C'est avec beaucoup de joie que je le fais. Je ne suis pas parfait, j'ai fait des gaffes. On a eu des désaccords, c'est vrai. Mais ce qui nous rejoint, et je l'espère, c'est Christ et sa parole. Et à son évangile. Et à son œuvre dans la vie des uns et des autres. Alors que Dieu nous garde de nous soumettre toujours à nouveau à sa parole et à notre Seigneur. Autour de l'évangile. Je propose de prendre quelques minutes de silence et je vais prier avant de laisser Michel l'occasion de nous justement de nous rassembler autour de notre point commun. Christ.